ensemble dans l'Ancien Testament. On va commencer, on a deux lectures. La première, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43 du prophète Ésaïe. On va lire trois versets, les versets 19, 20 et 21. Ésaïe 43, le verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. » Le second texte, c'est dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. C'est Dieu qui parle, là encore. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'eau Ruchama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu, Amen. Voilà, ce soir, je voudrais, en quelques instants, considérer un élément qui revient dans les deux lectures. Ça revient dans les deux lectures, dans ces deux prophéties que nous venons de mentionner. Il est question du désert. Dieu, dans le premier texte, affirme et annonce « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et puis, dans le livre d'Osée le prophète, en s'adressant à son peuple, Dieu dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert. » Et là, je parlerai à son cœur. Alors peut-être l'évocation du désert ne va pas vous susciter un enthousiasme débordant, parce que c'est pas un tableau comme cela des plus réjouissants. Vous auriez peut-être préféré que je vous prêche sur un jardin luxuriant, je sais pas, sur des choses comme ça. Mais quand même, frères et sœurs, Dieu est un Dieu de réalité. La vie chrétienne comporte des réalités et Dieu n'occulte pas les réalités pour ne prendre que les aspects positifs, mais le Seigneur nous prévient qu'il y aura des déserts, des traversées du désert. D'ailleurs, il y a une liste assez impressionnante des déserts bibliques. Alors j'en ai fait un échantillon, la Bible nous mentionne le désert de Beersheba, le désert de Paran, le désert de Shur, de Sin, de Sinaï, d'Étham, le désert de Tsin, de Moab, de Juda, de Ziph, d'Engedi, le désert de Gabaon, d'Edom, de Tekoa, de Kadesh, et on aurait pu en citer d'autres. Donc ce n'est pas un élément rare. Dans la Bible, le désert est là, présent, et même dans le Nouveau Testament. L'exemple très fort, c'est celui dans lequel le Saint-Esprit a poussé Jésus. Hein? L'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert. Un autre évangile dit le Saint-Esprit le conduit dans le désert et un autre l'emmena. Dans le désert. Trois évangiles sur quatre mentionnent ce temps intense et décisif que Jésus a vécu dans le désert. Dans le désert. Et il y a de nombreux personnages. On connaît Agar et son petit dans le désert. Qui n'a pas lu ce récit bouleversant? Il est mentionné Jacob dans le désert. Il a comme oreiller une pierre. Et on a Moïse dans le désert, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, qui va pérégriner dans le désert. Le roi David dans le désert. Il y a des exemples nombreux. Élie le prophète, au fin fond de son découragement, va s'isoler dans le désert, il va se coucher demandant la mort. Ce que je veux dire dans cette introduction, c'est que si eux ont eu leur désert, nous aurons les nôtres. Amen. C'est une réalité, même si on ne peut pas dire Alléluia, mais qu'on dise au moins Amen, parce que c'est la vérité. Tu auras tes déserts, tu devras vivre certaines séquences de ta marche chrétienne qui ressembleront à des séjours dans le désert. Mais je m'empresse de dire deux choses. C'est que le chrétien traversera le désert. Il ne mourra pas dans le désert. Pour l'enfant de Dieu, il pourra venir le moment que Dieu juge utile d'entrer dans le désert, mais déjà Dieu a prévu le moyen et le moment de sortir du désert. Si quelqu'un est en plein désert, réjouis-toi, ton Père céleste a prévu le moment et le moyen où tu vas sortir du désert. Et tu en sortiras toujours bonifié, amélioré, comme on va le voir tout à l'heure dans les explications qui vont suivre. La deuxième chose que j'aimerais te dire et qui conforte la première, c'est que le désert n'est pas pour ta perte. Le désert n'est pas pour ta destruction, parce que Dieu en personne a scellé une promesse, c'est de faire du désert un moyen de conduire ses enfants et son peuple plus loin, plus haut dans leur vie spirituelle. J'aimerais scinder mon propos ce soir en quatre points que je vous livre d'emblée dans la simplicité. Le désert, c'est le lieu où je fortifie mon attachement à la parole de Dieu. Deuxièmement, le désert, c'est le lieu où je développe mon intimité personnelle avec Dieu. Troisième élément que j'aborderai, le désert, c'est le lieu où j'apprends à discerner la direction que Dieu veut donner à ma vie. Et enfin, terminerons, le désert, c'est le lieu où j'expérimente l'abondance du Saint-Esprit, l'abondance de la bénédiction de Dieu, et je terminerai en parlant quelques instants sur la nécessité impérieuse d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Alors on va reprendre un à un ces quatre points. Voilà, je prendrai juste une heure pour chaque point. Et comme ça, demain matin, on sera là pour le petit-déj. Hein. Le désert, c'est le lieu, premièrement, où je fortifie mon attachement à la parole de Dieu. Et oui, parce que c'est l'exemple et le modèle que Jésus nous présente lorsque lui-même, dans le désert, a dû affronter les subtilités redoutables du tentateur. C'est le fameux « il est écrit » qui a permis à Jésus de triompher de l'adversaire et de déjouer ses ruses et de ne pas tomber dans ses pièges. Gloire à Dieu. Le « il est écrit » du Seigneur représente pour nous un élément déterminant notre attachement à ce que Dieu dit. Tout à l'heure, j'avais un entretien et je disais qu'il n'y a rien de plus solide que ce que Dieu dit. Amen. Mon ressenti du moment, mes analyses, mes modes de pensée, toute la vie affective et psychologique par lesquelles je peux passer, ne doivent jamais prendre l'ascendant sur ce qui est écrit. Parce que c'est toujours ce qui est écrit qui s'accomplira. Amen. Les événements relayés par les journaux télévisés, les commentaires des chroniqueurs, les circonstances qui sont mises en première ligne, tout ce que nos yeux voient ne doivent pas prendre l'ascendant sur ce qui est écrit. Jésus a dit, le ciel, la terre passeront, mais ma parole demeurera 15 jours. Oui ou non? Non, hein? Éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement, malgré les contradicteurs, malgré ceux qui veulent nous faire avaler leurs mensonges, la parole de Dieu demeurera éternellement. Ça, c'est vrai généralement, mais c'est vrai aussi pour ta vie. Dans tes déserts, dans le désert que tu traverses, tu vas renforcer ton attachement aux promesses de Dieu. Et dans tes prières, tu ne vas pas exprimer une peur panique, mais tu vas confesser qu'en dépit de tout ce que tu traverses, ton espérance, tes attentes sont et demeurent ancrées dans la parole de Dieu. Dis au Seigneur, malgré mon ressenti et mes troubles, je décide de m'appuyer sur ta parole. Amen. Je confirme, je conforte, j'insiste, je persévère, afin que ta parole dans ma vie et dans mes combats conserve sa primauté, son influence suprême, que le Seigneur soit béni. Dans ton désert, mon frère, ma sœur, attache-toi à la parole de Dieu. Repasse certains psaumes, repasse et mémorise certaines promesses, sonde les Écritures, nourris-toi des paroles d'encouragement qu'elles contiennent. Alléluia, nourris ta foi, conforte-toi, pénètre-toi des paroles de vie qu'elles contiennent. Ton désert est une opportunité pour donner à ton attachement aux Saintes Écritures un essor, un développement et un enrichissement. Le désert, deuxièmement, c'est le lieu où je développe mon intimité personnelle avec mon Dieu. Avez-vous remarqué tout à l'heure le langage que Dieu tient à l'intention de son peuple, au sujet duquel il a dit « je veux l'attirer » et la conduire au désert, là, je parlerai à son cœur. Et il y a une suite tellement riche et encourageante. Dieu va dire, là, donc c'est dans ce lieu-là, dans le désert, c'est là, dans le désert, que premièrement, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, on pourrait traduire la vallée des tourments, la vallée des troubles, parce que Achor, c'est ça, c'est les troubles, c'est les tourments. Là, dans le désert, je lui donnerai la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. C'est-à-dire que, au sein des troubles qui pourraient assaillir ton âme, Dieu fait ce miracle, tes troubles deviennent une opportunité pour que Dieu te rappelle ton espérance. Alors que plongé dans ces troubles, l'être humain va déprimer et aller dans les abysses d'une dépression nerveuse sévère. Pour l'enfant de Dieu, c'est le contraire. Dans la vallée des tourments, dit Dieu, eh bien je te donnerai une porte d'espérance. Et Dieu continue. Il s'en passe des choses dans ce désert. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Gloire à Dieu. Dans le désert, dans la vallée des tourments, un miracle. L'Église, au lieu de, comment dire, murmurer quelques gémissements et quelques plaintes, transportée miraculeusement par quelque chose de divin, l'Église va chanter. Comme au temps de sa jeunesse. Vous vous souvenez, vous, des cantiques quand vous étiez jeune ? Ben moi, je m'en souviens comme si c'était avant-hier. D'ailleurs, chaque fois que je me dis que j'ai bientôt 70 ans, je prends le vertige parce que je me dis que c'est pas possible. Il y a un demi-siècle qui a passé comme ça, on dirait que c'était avant-hier. Mais moi, je me souviens des cantiques de ma jeunesse. J'avais 16, 17, 18, 20 ans. Je vous assure, quelquefois, je chantais en pleurant, mais pas de tristesse, en pleurant d'émerveillement. Les cantiques de ma jeunesse, d'une intensité, d'une richesse. Alléluia. Chaque parole qui composait ces cantiques, ça trouvait un écho là à l'intérieur. C'est tout mon être qui vibrait devant mon Seigneur. Alléluia. Que c'est merveilleux de pouvoir exprimer et vivre une telle intensité. Alors les années passent, les luttes, les combats, quelquefois les prières non exaucées, les apparents échecs, le temps qui passe, et peut-être que les cantiques de la jeunesse qui jaillissaient avec intensité sont devenus aujourd'hui quelques couplets insipides. Alors il y a le désert. Et dans le désert, il y a un travail de Dieu merveilleux. Je retrouve la beauté, la richesse, l'intensité, la saveur de ce que je vivais avec mon Seigneur dans ma jeunesse spirituelle. Il y a des choses qui étaient enfouies sous des tonnes de pierres et que Dieu permet de ramener en surface. Je me mets ou je me remets à l'aimer comme je l'aimais avant. Moi, je prie pour que nous tous, nous puissions aimer Jésus comme nous l'aimions au premier jour. Et qu'on ne ressemble pas, vous savez, à ces vieux couples-là, ça devient la routine. on vit sous le même toit, on cohabite, on ne parle plus ensemble, ou si ce n'est par des petits mots. Ah ouais. Tiens, j'ai mis le riz d'avant-hier sur l'étagère, tu te le fais réchauffer. Bon. Et l'autre, le soir, il répond, bah, il n'était pas très bon ton riz. Enfin bon, il y a des messages comme ça. Ouais. Ça, faudrait pas qu'on soit comme ça. Moi, je prie qu'il y ait un rafraîchissement, un renouvellement, quelque chose. Que le désert, c'est le lieu où je développe mon intimité personnelle avec mon bien-aimé Sauveur. Amen. Et Dieu va plus loin. Et Dieu dit, en ce jour-là, là, dans ce désert, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître, même si Dieu demeure mon maître. Hein. Mais il y a une autre dimension qui prend le pas, c'est celui de l'intimité d'une épouse à l'égard de son époux. Tu m'appelleras mon mari. Quelle image qui véhicule et qui contient un amour d'une telle richesse, d'une telle qualité. En ce jour-là, dit Dieu, je briserai l'arc, l'épée, la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. L'intimité. Ça m'arrive parfois de me souvenir des premiers jours où, avec mon épouse, ben on se parlait, quoi. Je me revois encore dans la vieille quatrelle de dépannage de l'Assemblée de Dieu de Lyon. Voilà, j'avais eu un super héritage. Voilà, tu fermais une portière, tu ouvrais les trois autres. Enfin bon, c'était un peu comme ça. Elle était un peu asthmatique, elle avait des problèmes articulaires, un peu cardiaque aussi. Bon, mais elle roulait quand même. Hein. Et je me rappelle, quelquefois, je ramenais ma fiancée chez elle et au pied de l'immeuble, bon, on parlait. On parlait et à un moment donné, on regardait la montre. On disait, c'est pas possible, ça fait 1h15 qu'on parle. Mais on aurait dit 3 minutes. Voyez-vous. Quelle qualité d'amour il y a dans les images que Dieu évoque ici. C'est cet amour-là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui doit régner dans nos cœurs à l'égard de ce Dieu merveilleux. Et ça, c'est dans le désert. C'est dans le désert que je développe mon intimité personnelle avec mon Seigneur. Alléluia. Troisième point, le désert, c'est le lieu où j'apprends à discerner la direction de Dieu pour ma vie. On veut que Dieu me montre sa direction, oui ou non. On ne veut pas tâtonner, nous. On ne veut pas perdre de temps, faire des erreurs, et puis se rattraper, revenir en arrière en disant « Oups !» Non, Dieu veut, dans les déserts, mettre un chemin. Je mettrai un chemin. Et lorsque tu as l'impression d'être dans le désert, complètement désorienté, moi déjà, alors j'ai aucun sens de l'orientation, et ma femme ici dirait un gros amen, ça c'est sûr. Écoutez, même avec le GPS, il m'arrive de rater la sortie d'un rond-point. Voyez. Ouais, parce que la voiture, vous savez, quelquefois, elle met longtemps pour... Alors, quelquefois, il faut que je fasse un tour supplémentaire du rond-point pour reprendre même avec un GPS, j'ai des difficultés, vous voyez. Bon. Mais quand il s'agit d'orienter sa vie, ah, ça, c'est autre chose. Quand il s'agit de ne pas se tromper de sortie, de négocier le bon virage et de rester dans la bonne direction, je crois que parmi les prières qu'un enfant de Dieu se doit de faire au Seigneur, c'est de lui réclamer sa direction. Amen. Sa volonté. Et je faisais une parenthèse pour les jeunes et les ados dimanche matin, je la refais la même parenthèse parce que c'est sûr qu'un chrétien à 88 ans, c'est pas pareil qu'un jeune à 16 ans. Parce que celui de 88 ans, il a l'essentiel de sa vie dans le rétroviseur. Mais le jeune homme de 18 ans, la jeune fille de 20 ans, elle a devant elle tout un parcours qu'elle ignore, jalonné de pièges, de subtilités. Eh bien, Dieu te dit, je mettrai un chemin dans le désert. Le psaume 32, le verset 8 dit, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et je te montrerai le chemin que tu dois suivre, que Dieu soit béni. Le verset suivant nous dit, ne soyez pas comme un mulet. Parce que Dieu veut nous montrer, quelquefois nous, on est un peu dur de la feuille. Hein? Et bon, mais Dieu veut nous montrer, il veut orienter notre vie, nous montrer que telle porte ne correspond pas à sa volonté. Il va fermer des portes et puis il va ouvrir les portes qui correspondent à ce qu'il a prévu pour nous et pour notre bonheur, que son nom soit béni. C'est dans le désert que je cherche le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, j'ai du mal à y voir clair. J'ai du mal à m'orienter. J'ai perdu la clarté de mes repères. Je ne sais plus trop où j'en suis, Seigneur. Eh bien, c'est là que Dieu met un chemin dans le désert, que son nom soit béni. Et je termine avec ce quatrième point. Le désert, c'est le lieu où j'expérimente l'abondance du Saint-Esprit, tout simplement parce que Dieu lui-même le dit de façon explicite, non seulement je mettrai un chemin dans le désert, mais en plus des fleuves dans la solitude. Et ça revient une seconde fois au verset 20, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Et je veux voir dans ce symbole, cette image de fleuves qui jaillissent en plein désert, le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas trop le temps, mais il n'en faut pas beaucoup au Seigneur pour susciter en nous une soif nouvelle. J'aimerais vous rappeler l'importance capitale de l'expérience dans le baptême, du baptême dans le Saint-Esprit. Je ne vais pas oser vous demander si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais ce que je veux affirmer, c'est que la volonté de Dieu, c'est de faire jaillir des flots abondants dans ton désert et de te baptiser dans le Saint-Esprit. On est transformé par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On n'est pas plus sauvé, mais on est mieux équipé d'un revêtement de puissance, d'aptitude surnaturelle, de discernement, de dons spirituels, des choses qui dépassent les limites humaines et qui nous proviennent par l'onction du Saint-Esprit, des choses qu'on n'avait pas prévu de dire et qu'on sent nécessaire de dire, parce que l'Esprit de Dieu est là. Je crois utile d'insister ce soir auprès de notre Église sur la nécessité de conserver la dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Pour quelques-uns, le baptême dans le Saint-Esprit revient au brevet d'un diplôme encadré, sous verre, en telle année, voilà. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est une merveilleuse expérience qui doit se conjuguer au présent. La volonté de Dieu, c'est aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, chaque jour, faire jaillir les flots abondants du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul écrit « Soyez remplis du Saint-Esprit », étymologiquement, on devrait traduire, même si c'est un peu lourd en français, « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Un flot constant, un flot permanent. Un flot doit, sans interruption, m'inonder, me visiter, me remplir, afin que, eh bien, je sois apte, équipé et revêtu de la puissance d'en haut pour une marche victorieuse dans le désert. Dans le désert, Dieu met des fleuves. Amen. Alors, tu es peut-être dans le désert. Le désert de l'épuisement, le désert de la fatigue, le désert d'un sentiment de sécheresse, le désert de l'impression que tes prières ne dépassent pas le faux plafond. Peut-être tu es dans un état intérieur pas très reluisant, mais Dieu peut transformer ton désert en un lieu de bénédiction, en un lieu de victoire, en un lieu de visitation. Est-ce que quelqu'un ce soir, dans le secret de son âme, voudrait faire monter cette prière? Seigneur, j'ai soif de ces fleuves-là. Je veux ces fleuves. Je veux ce puissant baptême dans le Saint-Esprit. Voyez, je termine avec beaucoup de respect. Un jour, il m'est arrivé de participer à une rencontre pastorale avec plusieurs représentants de plusieurs églises. Et il y avait des pasteurs d'églises évangéliques qui, depuis longtemps, ont exclu la notion du baptême dans le Saint-Esprit, prétendant que c'était pour le premier siècle, etc., etc. Bon, mais il y a beaucoup de respect et d'amour, il n'y a pas de problème, sauf que quand, à la fin, on a eu un moment de prière, intérieurement, j'ai pleuré en les entendant prier. Parce que la prière d'un chrétien, même sincère, à qui il manque le baptême dans le Saint-Esprit, n'a rien à voir avec la prière d'un chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a une puissance, il y a une richesse, il y a une conviction, il y a une intensité, il y a une marque qui est celle de l'onction du Saint-Esprit. Je prie différemment quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu, de notre mouvement, un ancien, vraiment, qui a été une colonne dans le mouvement, mais qui était d'une origine protestante et évangélique, disait ceci, après avoir lui-même expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, il disait ceci: je prêchais les mêmes messages après le baptême dans le Saint-Esprit, mais avec des résultats différents. Les cœurs étaient convaincus, bouleversés, remués. Il y avait des fruits que je n'avais pas avant. C'était les mêmes messages, mais cette fois-ci, il y avait le revêtement de puissance, l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, ne permets pas que nous manquions de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia! Que les déserts n'étouffent pas l'abondance spirituelle, et que les déserts ne nous découragent pas, et que nous comprenions ce soir que le désert, lorsque tu juges utile que nous le traversions, devient un lieu de grandes bénédictions. Alléluia, ne crains pas tes déserts, Dieu est avec toi. Dans le désert, il a prévu de faire en toi son œuvre, et le moment jugé par lui, il t'en sortira. Et peut-être dans quelque temps, tu traverseras un autre désert. Mais et de désert en désert, ta vie spirituelle s'enrichira. Que le Seigneur soit béni.